Il y a des destins exceptionnels, parfois. Elle est née en 1927, dans un petit village à la frontière de la Hongrie et de la Slovaquie. Elle est juive, et son histoire a basculé le 19 mars 1944, lorsque la Gestapo et la police hongroise sont venus l'arrêter avec sa mère et sa sœur. Elle avait 16 ans, direction Auschwitz. À 16 ans, la voici donc déportée. Sa famille périt dès les premiers jours. Elle va survivre. Elle fait partie des très rares survivants parmi les 437 403 juifs hongrois déportés en seulement 46 jours. À son retour de déportation, comme beaucoup, elle a gardé le silence. Elle n'a pas voulu retourner en Hongrie, s'est installée en France après 4 années passées dans un orphelinat. Elle a appris le français et puis elle s'est reconstruite. Elle dirait, elle est renée. Elle est devenue psychologue. Son livre, publié près de 70 ans après les faits, n'est pas à proprement parler un témoignage sur la Shoah, c'est plutôt une méditation sur la vie, sur la joie, sur les renaissances. Il s'intitule ce livre « 4 petits bouts de pain » et il vient de paraître aux éditions Albin Michel. Bonsoir Magda Hollander-Lafont.
Bonsoir.
4 petits bouts de pain, sous-titré « Des ténèbres à la joie ». C'est le titre de ce livre qui paraît aux éditions Albin Michel et qui n'a rien à voir avec les livres déjà publiés, car ce n'est pas un récit sur la Shoah, ça n'est pas non plus une tentative d'explication, ça n'est même pas une tentative de dire comment vous vous êtes reconstruite. C'est une méditation pour aujourd'hui, sur aujourd'hui, et évidemment il y est question du passé. Alors je sais que prendre la parole, c'est toujours une épreuve pour vous. Tout le monde, je crois, peut le comprendre. Mais vous parlez, Magda Hollander-Lafont, très souvent dans les écoles, aux jeunes, aux élèves. C'est plus simple de faire comprendre des choses comme ceci aux adolescents?
C'est plus facile? Non. Parce que chaque fois que j'arrive dans les collèges, je suis pleine d'appréhension. Parce que je sais à quel point mon intervention... avant cela, je prends une grande responsabilité. Et pour moi, les jeunes sont très importants. Et il est important pour moi de transmettre de l'inimaginable de telle sorte pour que ça puisse être entendu par eux.
Et notamment ces jeunes. Vous semblez d'ailleurs à plusieurs reprises dans ce livre dire que la jeunesse, pour vous, est plus capable, mieux capable peut-être, de comprendre les mots que vous avez choisis pour raconter ce que vous avez vécu. Qu'est-ce qu'on a de plus à 16 ans que l'on perd ensuite?
Je vais vous dire quelque chose d'étonnant que j'ai observé moi-même. Je crois que face aux jeunes, je deviens leur âge et j'entends leurs paroles. Je sens intérieurement que j'ai leur âge et que je sens comment j'ai à leur parler pour être entendu. Souvent, je me surprends, mais Magda, mais tu, comme si je parlais, comme si j'avais leur âge.
16 ans.
16 ans.
16 ans, c'est l'âge auquel, je le disais tout à l'heure, votre histoire a basculé. Je voudrais qu'on reprenne, si vous le voulez bien, les faits d'abord, avant de venir à cette méditation sur les ténèbres, sur la joie, simplement pour comprendre. Où habitiez-vous exactement en Hongrie? Et quel était le statut de la Hongrie à cette époque-là? Car on l'a un peu oublié, mais ça n'avait rien à voir avec ce que c'est aujourd'hui.
J'habitais à Nyíregyháza, juste Debrecen est en dessous. Nous avons déménagé de petits villages dans une grande ville pour pouvoir faire les études. Et c'est là que je suis restée de mes 10 ans, à peu près 10 ans, jusqu'à mes 16 ans, dans cette ville-là.
Que faisaient vos parents? Dans quel milieu avez-vous été élevé?
Écoutez, autour d'eux, autour de mes parents, il y avait un grand silence. Donc, je ne sais pas. Mon père était absent et on ne parlait pas chez moi. Donc, pour moi, c'était très lourd d'entendre d'entendre ce silence. Entendre.
Donc il faut vous imaginer jeune adolescente, plutôt solitaire, c'est ça ?
Oui, c'est. Et puis aussi très présent aussi au réel, parce que je le savais bien que la vie pour nous n'était pas facile à ce moment-là.
Est-ce que vous compreniez ce que signifiait être juive ? En 1944, dans une Europe déjà en proie à la guerre et dans une Hongrie déjà ralliée au Reich allemand?
Pas tout à fait. Je n'ai pas bien compris. Parce que nous étions des juifs. Nous n'étions pas des juifs. Nous étions des juifs. Nous n'étions pas des juifs pratiquants. Et que. Toute ma judaïté, je l'ai reçue par les parents de ma mère. Donc, moi, je me suis sentie très intégrée. Je me suis sentie vraiment hongroise. Et c'est la première fois quand on m'a sortie de l'école. Pour moi, c'était un énorme choc. J'avais une véritable absence de mémoire. C'est comme une énorme choc que j'ai reçu, que je ne pouvais plus continuer à l'école, au lycée. C'est fini, c'est terminé parce que j'étais juive. Et je m'interrogeais, mais qu'est-ce que voulait dire être juif ? Déjà, dès le départ, je me suis dit, qu'est-ce que nous avons fait ? Qu'est-ce que ça veut dire d'être juif ? Ça veut dire d'être rejeté, c'est d'être envoyé. Finalement, je ne comprenais pas grand-chose qui se passait à cause de ce silence qui régnait autour de moi et de ce rejet de nous.
Ce silence est brisé le 19 mars 1944.
Pas de mars, c'est au mois d'avril. C'est une erreur. Nous étions déportés au fin avril, début de mai. Nous étions dans le premier transport. Je me permets de...
C'est une erreur de l'éditeur dans votre livre, puisque c'est là que j'ai pris l'information.
C'est là, c'est pour ça que c'est étonnant. C'est mars là-dedans, je n'ai pas vu.
Quel souvenir conservez-vous de ce jour où la Gestapo et la police hongroise sont venues vous arrêter, votre mère, votre sœur et vous-même ?
Eh bien là, j'ai une mémoire horrible d'une immense incompréhension. C'était pour moi incompréhensible que nous vivions normalement avec nos voisins. Et de jour au lendemain, nous étions méprisés. À peine nous avons quitté notre maison, on est rentré pour vider la maison et nous étions humiliés tout le long du trajet.
Ça veut dire que vous avez été dénoncé.
Dénoncé, oui. J'ai été dénoncé et je ne comprenais plus rien. Comment cela est-il possible ? Comment cette transformation ?
Est-ce que vous en parliez avec votre mère ? Votre sœur était plus petite, elle avait 12 ans, je crois. Mais est-ce que vous en parliez avec votre mère lorsque, dans ces heures, vous avez été mise dans ce train,
destination dans le inconnue. Train, parler dans le train, en allant à Auschwitz, non. Non. Nous étions très silencieuses. Très silencieuses. Je crois qu'il n'y a pas de mots. Souvent, quand il vous arrive un énorme choc, vous n'avez pas de mots. Je n'avais pas de mots. Et je pense que ma mère n'en avait pas non plus. Mais elle nous regardait avec énormément d'attention et de protection, mais sans un mot. Mais aujourd'hui, je comprends le au-delà des mots.
Au-delà des mots ?
Au-delà des mots. Je comprends les regards. Et souvent, pour moi, les regards sont plus importants que des mots.
Et qu'y avait-il dans le regard de votre mère ?
Souvent, les gestes démontrent la parole. Et alors, j'ai appris à lire comme ça, dans les regards. Vous disiez...
Qu'y avait-il dans le regard de votre mère, dans ce wagon ?
Dans le regard de ma mère, j'ai lu la désespérance et une immense tristesse. Et la peur. Comme nous avions tous en nous cette peur, parce qu'on nous avait dit que nous allions travailler. On nous a menti. On nous a dit qu'on allait travailler. Alors, de temps en temps, je disais à ma mère, mais tu sais, on va aller travailler, tu sais, c'est moi quelquefois réconfortais ma mère en disant, tu sais, on va travailler, nous savons travailler, le travail ne nous fait pas peur. Alors, elle m'a regardée en silence et j'ai vu dans son regard une immense peur et quelque chose que je ne pouvais pas interpréter, mais d'une très grande tristesse.
Rendez-nous la lumière, Dominique A sur France Inter.
On voit des autoroutes, des hangars, des marchés, de grandes enseignes rouges et des parkings bondés. On voit des paysages qui ne ressemblent à rien, qui se ressemblent tous et qui n'ont pas de fin. Rendez-nous la lumière, rendez-nous la beauté, le monde était si beau. Et nous l'avons gâché. Rendez-nous la lumière, rendez-nous la beauté. Si le monde était beau, nous l'avons gâché. On voit de plein rayon de bêtes congelées, leur peur prête à mâcher par nos dents vermillons. On voit l'écriture blanche des années empilées. Tous les jours c'est dimanche, tous les jours c'est prier. Rendez-nous la lumière, rendez-nous la beauté. Le monde était si beau et nous l'avons gâché. Rendez-nous la lumière, rendez-nous la beauté. Si le monde était beau, nous l'avons gâché. Des cieux embrigadés, tant de vies sacrifiées pour du cristal qui ronge. On voit des fumées hautes, des nuages possédés, des pluies oranges et mauves donnant d'affreux baisers. Rendez-nous la lumière, rendez-nous la beauté. Le monde était si beau et nous l'avons caché. Rendez-nous la lumière, rendez-nous la beauté. Si le monde était beau, nous l'avons caché.
Grand entretien de François Bunel sur France Inter.